Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emmanuelle Duez, qui est fondatrice de The Boson Project. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast qui va être sous le signe de l'engagement. Hein. Tu es une femme très engagée, j'ai vu dans tous tes projets. Tu as de nombreux projets d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours avant d'entreprendre et tous ces projets?
Avant d'entreprendre, j'étais étudiante, comme voilà. Plein de gens. Donc j'ai plutôt fait des études de droit pénal. Et puis, ensuite, j'ai monté une association qui
tu
s'appelle...
Tu voulais être avocat au départ? Je te coupe, désolé. Mais
non, je voulais être juge d'instruction.
Juge d'instruction.
Voilà. Et puis, finalement, quand j'ai fait des stages en juridiction, j'ai rencontré des gens qui étaient très abîmés par leur métier. Donc, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que j'allais faire de la politique. Donc, je suis partie à Sciences Po, puis en cabinet ministériel. Et puis là, j'ai encore changé d'avis. Parce que là, j'ai vu des gens très frustrés d'essayer d'agir et de ne pas avoir d'impact. Et puis, j'ai atterri à l'ESSEC, donc dans une école de commerce, en me disant que finalement, peut-être que la chaussure que je cherchais, il fallait que je la crée moi-même. À la sortie de l'ESSEC, j'ai monté une première association qui s'appelait Woman Up, qui existe toujours, qui propose une vision un peu avant-gardiste en fait, des sujets de mixité homme-femme dans le monde de l'entreprise. On pourra peut-être en parler. Et à la suite de Woman Up, j'ai créé une entreprise, The Boson Project, qui vient de fêter ses 10 ans.
Que veut dire boson d'ailleurs? C'est le départ de ce mot?
Boson, c'est le boson de Higgs en fait. Hein. C'est une particule élémentaire. C'est la plus petite qu'on ait découverte à ce jour. Et en fait, elle a, je le dis hyper mal, et je pense qu'un Étienne Klein me tomberait dessus, mais c'est pas grave. On va dire grosso modo, elle a trois propriétés physiques. En dessous d'elle, aujourd'hui, il n'y a rien, puisque c'est la plus petite qui a été découverte. C'est à partir d'elle que tout se crée, puisque c'est un agrégateur d'énergie, en fait. C'est quelque chose qui réunit. Et puis, elle n'est rien toute seule. Et donc, je trouvais que c'était un joli parallèle avec le corps social de l'entreprise, les hommes et les femmes qui composent les organisations avec lesquelles on travaille. Finalement, c'est un peu comme les particules élémentaires, les bosons d'une organisation. Sans eux, il n'y a rien. Il n'y a pas de boîte sans corps social, il n'y a pas de boîte sans engagement, il n'y a pas de boîte sans client, il n'y a pas de boîte sans talent, ça n'existe pas. Ils ne sont rien tout seuls. L'individu a ses limites. Et c'est bien à partir d'eux que tout se crée, en tout cas de manière durable. Donc voilà.
Bon, un côté constellation un peu.
Tu
dois adorer l'espace.
Un côté constellation, en effet, puisque... Dans la foulée de cette création-là, en fait, on a créé plein d'autres structures qui font partie aujourd'hui de la galaxie Boson.
Ce virus entrepreneurial, tu l'as développé petit à petit ou tu avais ça un peu dans ta famille ou sans tout dévoiler? Non, ça t'est venu comme ça. Tu avais envie de créer, d'être aux commandes de ton destin, comme on dit.
Même pas. C'est-à-dire que j'ai cherché quoi faire de ma peau pendant plein d'années d'études. Et je pense même que j'ai enchaîné les études parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui sonnait juste pour moi. Et en fait, c'est le jour où j'ai fondé cette association que j'ai compris que le quoi était très important. Hein. Quel job, quel projet, quel message, quel impact. Mais le comment, pour moi, encore plus important. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, donc le fait de monter des projets, d'agréger une équipe autour de moi, de se dire que tout est possible, de tenir quand c'est difficile, de convaincre, de se planter, de recommencer, ça épouse les contours de ma personnalité. D'accord. Et donc, plus que du marketing, de la compta, du consulting, j'en sais rien.
C'est plus l'aventure sur la longueur et ce côté aussi un peu résilience qu'on entend. Parce qu'il
oui, et puis c'est le fait d'être soi. Enfin, en tout cas, moi, ça me ressemble. Mmh. Et je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que de faire ça.
En tout cas, on sent tout à... Donc, c'est vrai que c'est la spécificité, je trouve, de ta dimension entrepreneuriale, c'est que tu as mis beaucoup de sens là-dedans. Et même si tu as une activité, finalement, de conseil au service des organisations, de formation et d'événementiel, tes valeurs sont très fortes dans ta communication. Donc, il y a ce côté solution intelligente, bâtisseuse de solutions intelligentes, je crois que tu aimes bien ce terme. Mais ça, comment c'est... Donc, c'est vraiment ces valeurs, en fait, qui te caractérisent, que tu as affirmées dans cette entreprise, en fait, j'ai l'impression.
Alors, le conseil, c'est un mot qui est trop réducteur pour nous parce que les bosons, en tout cas la vision initiale, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, plus qu'une boîte, aujourd'hui il y a plein d'entreprises à l'intérieur, donc il y a un certain nombre de structures juridiques, mais c'est surtout un mouvement. Et c'est pour ça qu'on est depuis le début un centre d'études sur le futur du travail, c'est que nous on travaille finalement sur deux grands sujets, on travaille sur le sujet de l'engagement, donc pourquoi est-ce qu'on s'engage dans une entreprise, contre quoi on dit son engagement. Et est-ce que l'engagement d'hier, c'est l'engagement de demain ? Et du coup, évidemment, là, on convoque les notions de sens, d'utilité, de génération, de transition environnementale. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est la responsabilité. Pour moi, les deux vont de pair. L'engagement, c'est davantage celui des équipes ou des parties prenantes. La responsabilité, c'est celle des dirigeants ou des actionnaires, sur laquelle on travaille beaucoup et de plus en plus, parce qu'en fait, l'engagement et la responsabilité vont de pair. C'est, je m'engage dans une entreprise à l'intérieur de laquelle les propriétaires, les actionnaires et les dirigeants ont pris ou vont prendre leurs responsabilités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise, en fait, c'est une organisation qui est éminemment politique, qui est presque en avance sur la politique, en tout cas au sens... de la politique politicienne à la française, et que c'est un petit laboratoire à l'intérieur duquel on est en train d'esquisser le monde de demain. Donc un monde qui est parcouru de transition technologique, de transition environnementale extrêmement forte, d'évolution sociologique par rapport aux citoyens, aux humains qui se suivent, ne se ressemblent pas, d'accélération du temps. Et en fait, l'entreprise, elle est à la frontière de toutes ces turbulences et elle doit inventer un modèle à l'intérieur duquel les gens vont y croire, s'engager dans la durée. Elle doit se transformer de manière perpétuelle. Et moi qui voulais faire de la politique, je me suis dit finalement, l'entreprise, c'est comme une éprouvette. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en travaillant sur ce sujet de l'engagement comme territoire d'observation et sur cette notion de responsabilité comme objectif, atteindre une responsabilité ample des dirigeants, faire de la politique autrement et voir si c'est possible d'engager sur des idéaux, sur une vision humaniste de la performance économique, un certain nombre de collaborateurs et de dirigeants. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans. Mmh. Et du coup, plus qu'être engagé, je pense que... en tout cas, moi, j'assume à 3000% le fait qu'on soit des militants. Il y a plein de gens avec qui on ne travaillera jamais parce que jamais ils viendront nous chercher. Il y a plein de gens avec lesquels on adore travailler parce qu'en fait, plus que des dirigeants, plus que des managers, c'est des humains un peu exceptionnels qui se disent qu'ils ont une responsabilité à prendre dans le monde de demain et que ça commence aussi par le monde de l'entreprise. Ne serait-ce que parce que la manière dont on s'engage dans l'entreprise préfigure la manière dont on s'engage dans la société.
Ah, super intéressant tout ce que tu... Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute. Tout d'abord, l'actualité de tout ce que tu dis, même si ça a démarré il y a 10 ans. Alors, peut-être on va en parler, mais du rapport au travail qui a énormément changé. Il y a eu quand même une énorme fracture il y a 3 ans avec cette crise Covid dont on sait que c'est pour moi un trauma peut-être de plusieurs années, voire décennies. Donc ça, d'avoir un peu ta vision. Bon, l'environnement, tu l'as cité, les RSE qui devient une espèce de prérequis essentiel. Donc, ton visu, toi, aujourd'hui, en 2023, de ce qui te paraît si clé pour les entreprises. Ça peut être des tendances, ça peut être des choses qui, finalement, se sont énormément, qui sont devenues incontournables. Tu as commencé à en parler, à travers l'engagement, la responsabilité.
Alors, ce qui me paraît clé, y a plein d'éléments. Je vais essayer de lister 4-5 trucs majeurs pour que ça soit un petit peu pédagogique. Le premier élément, c'est qu'on parle beaucoup de performance durable. Le monde économique n'existe pas sans performance. Sinon, c'est de la philanthropie. Et le monde économique, c'est aussi ce qui nous fait bouffer tous, en fait. Donc aujourd'hui, c'est le sang de nos sociétés. Et donc j'entends les discours post-croissance et post-monde capitalistique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dedans.
Tu trouves qu'on oublie un peu, je te coupe tout de suite, mais ça, tu trouves qu'aussi dans les débats médiatiques, on a tendance à oublier cette donnée de base. Parce qu'on est dans une social-démocratie qui est la France et qui a tendance à parfois...
Je trouve qu'il y a du patron bashing et il y a du entreprise bashing, mais qui repose quand même sur une connaissance économique extrêmement médiocre de la situation. Donc... en gros, voilà, aujourd'hui, le tissu économique, il est extrêmement important. Il est important dans la vie des gens. Il est important pour une démocratie comme la France. Il est important à l'échelle globale, hein, puisque sur les 100 plus grandes organisations mondiales, 89 sont des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut emporter des transformations à l'échelle dans notre société, voire même dans notre monde, qui probablement on a besoin, c'est bien par le biais du monde économique qu'on peut... passer à l'échelle ces transformations qu'on appelle de nos voeux. Donc, l'entreprise, avec un grand E, elle est fondamentale dans l'échiquier de la société d'aujourd'hui et de la société qu'on veut bâtir demain.
Alors, je te coupe tout de suite. Désolé, je n'ai pas trop coupé, mais ça m'intéresse ce que tu dis. Ce que tu dis, j'en suis totalement convaincu. Et en plus, tu adores la politique. Et pourtant, en France, on a l'impression que les gens, ils ont un malin plaisir de déléguer leur sort dans le politique et le gouvernement. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de problème un peu ? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais...
En fait, je pense qu'on peut apprendre à être des citoyens responsables et conscients de la difficulté des enjeux dans l'entreprise. Parce que si on n'apprend plus à être ça à l'école, si on n'apprend plus à être ça dans les syndicats, si on n'apprend plus à être ça... au niveau de l'État-nation en France, je travaille beaucoup avec les militaires, donc le sujet de l'État-nation, l'engagement patriote, c'est des thématiques qui me parlent beaucoup. Si on ne l'apprend plus là, il faut qu'on l'apprenne quelque part. Et du coup, je crois qu'on peut l'apprendre dans le monde de l'entreprise et que cette entreprise-là, donc micro-société dont je te parlais tout à l'heure, pour revenir à ta question précédente qui était les 3-4
donc la performance tout d'abord,
éléments majeurs, voilà, elle doit performer, elle doit se développer, elle doit survivre dans un monde de turbulence. Et la pandémie, c'était probablement une crise majeure, mais qui annonce une succession de crises pour les 30 prochaines années qui vont être d'ampleur similaire. Donc, elle doit générer de la performance durable. Ça, c'est le premier élément, sans quoi je crois. Et ce qu'on met derrière performance durable, c'est ce que tu as évoqué en introduction, c'est les sujets de RSE qui, en fait, deviennent aujourd'hui des sujets de business. Ils sont le cœur du business. Donc, une performance durable, c'est une performance qui est environnementalement parlant soutenable. C'est une performance qui est socialement utile, socialement acceptable, et c'est une performance qui est économiquement assumée. Voilà. Donc, je crois en ça. Ensuite, je crois que le vrai défi, une fois qu'on s'est dit « Ok, il faut transformer la performance de nos organisations, donc la valeur créée », c'est moins de projeter une performance durable que d'être en capacité de générer durablement de la performance. Ça veut dire avoir une fabrique à engagement à l'intérieur des organisations qui tienne la route, qui sache se remettre en cause face aux salves générationnelles qui sont toutes différentes, avec des rapports à l'engagement qui s'abîment, des générations qui conçoivent le travail de manière très différente de nos aînés, et donc une entreprise qui doit sans cesse se réinventer en se disant « Mais finalement, contre quoi je troque l'engagement ? Qu'est-ce que je dois donner aux gens pour qu'ils aient envie de s'engager pour moi ?» Sachant que ma définition de l'engagement d'entreprise, c'est dépasser les frontières de la fiche de poste. Tous ces trucs-là de quiet quitting, de je suis au travail et je regarde mon travail en faisant le minimum syndical parce qu'en fait, tout ça, c'est de la merde, qu'on entend beaucoup, en fait, qui est presque à la mode. En fait, je trouve ça horriblement triste. Qui a envie de passer 8 heures de sa vie à regarder son taf et à faire exactement le strict minimum en se disant « cela n'a ni queue ni tête, ça ne m'intéresse pas et donc je fais la révolution par les pieds ». Je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transformer le travail pour en faire un territoire d'engagement et comment est-ce qu'on peut inciter l'entreprise à se poser la bonne question d'un travail émancipateur, d'un travail épanouissant, d'un travail qui apporte du sens parce qu'il est profondément utile. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et ça, c'est le gros sujet sur lequel on travaille depuis 10 ans. C'est qu'est-ce que c'est qu'un modèle humain d'excellence ? Ça veut dire quoi, une entreprise qui, pendant 30, 50, 150 ans, sait s'adapter à des humains profondément différents dans une société qui mute à fond la caisse en créant un modèle social, un modèle de management où on prend soin des hommes et des femmes, une culture, une histoire, un patrimoine, des valeurs, une ambition commune à des antipodes, en fait, hein, des projets raison d'être où en une phrase, on dit un truc qui veut un peu rien dire et on l'affiche un petit peu partout. Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet dans lequel je crois. Donc, performance durable, générer durablement de la performance. Ça, c'est le gros défi de l'entreprise. Le troisième truc dans lequel je crois, alors qui peut faire polémique, hein, c'est peut-être mon côté très militarisé, mais je crois beaucoup au leadership, en fait. Je crois beaucoup au chef. Et je pense qu'il y a aujourd'hui en France, à la tête des organisations, des grands patrons, pas de toutes les entreprises, hein, ils sont même très, très rares. Mais il y en a, en fait. Il y a des gens qui prennent la mesure de leurs responsabilités.
Ou grand patron, non ?
Voilà. Grand patron, au sens voilà, mixte, oui, du terme, quand on embauche, que ce soit 50 ou 500 000 personnes, hein, on a aujourd'hui des employeurs, Sodexo, c'est 450 000 personnes de mémoire. En fait, on a une responsabilité humaine qui est absolument colossale. Et je pense que les hommes, avec un grand H, peuvent tout changer à la tête d'une organisation comme à la tête d'un État. Donc je crois à un leadership courageux qui a le courage de renoncer à la manière dont on faisait du business auparavant, à renoncer à une certaine vision aussi du profit, de la rentabilité, dans un monde ultra-financiarisé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce que la valeur, elle doit se remplir d'une dimension beaucoup plus humaniste, profonde, ample, utile au monde de demain, donc aux générations qui arrivent. Je crois également à un leadership intelligent. Et avant de venir te voir, j'avais une réunion avec la Fondation Edgar Morin. Edgar Morin, il a écrit des tonnes de livres sur la pensée complexe. Et c'est extraordinaire de se dire que cet homme qui a, je ne sais plus, 94 ans, je crois.
Encore vivant, quasiment 100 ans, je crois.
Il a presque 100 ans, ou alors il a peut-être même 100 ans. Bref, il est très très vieux. Et ses écrits sont plus contemporains que jamais, parce qu'en fait...
Très moderne dans certaines pensées, oui, c'est sûr.
Il a pensé la complexité. La complexité, on est en train d'entrer dedans. Et le monde de l'entreprise, c'est un monde où les dirigeants se prennent en pleine face l'immense complexité de projeter, de planifier dans un monde incertain, dans un monde incontrôlable, dans un monde qui s'emballe avec l'obsolescence des compétences, avec des règles du jeu business qui sont en train de changer, une réglementation qui va dans tous les sens. La complexité, on y est. Et donc oui, je crois un leadership intelligent. Donc ça serait mon troisième élément de conviction. Je crois aux dirigeants. Et puis si je devais en avoir un quatrième, ce que j'ai dit entre 4 et 5, si je devais avoir un quatrième élément de conviction, je dirais que je crois dans l'homme avec un grand H, mais pas dans tous les hommes. Là aussi, c'est volontairement un peu provocateur. Si on regarde la très jeune génération, par exemple, la génération Z, née après 1995, qu'on appelle la génération climat, je ne crois pas que 100% de cette population soient des gens éveillés au monde de demain et qui sont prêts à se retrousser les manches pour conduire des transformations. En revanche, je pense qu'au sein de cette génération, comme de toutes les générations, il y a 10% d'allumés heureux qui sont prêts à tout, qui ont des rêves bien plus grands qu'eux.
C'est la phrase d'Audiard, ton truc, qu'importe les fêlés, voilà, ils laissent passer la importe, lumière.
Ouais, c'est ça, voilà. Qu'importe les fêlés, parce qu'ils font passer la lumière.
Elle est pas mal,
et
cette phrase.
C'est un peu ma doxa entrepreneuriale depuis le début. D'ailleurs, c'est une phrase qu'avait dite un de mes profs d'entrepreneuriat à Sciences Po. Je suis allée à 2 cours, après j'ai arrêté, j'en avais marre, je trouvais ça pas intéressant, j'ai été bête, j'avais pas compris que c'était ça que je voulais faire plus tard. Mais il avait dit cette phrase...
Michel Audiard, hein.
Et elle m'est restée profondément gravée, en fait. Et je pense qu'il faut être un peu fêlé. Et c'est pour ça que je crois aux hommes, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus éclairés, qui sont plus fêlés, en fait, qui croient en leurs rêves, qui croient un peu en eux aussi, c'est super important, mais qui, dans le contexte actuel où on doit réinventer la fabrique à excellence de l'entreprise, on doit réinventer une forme de démocratie plus respectueuse, plus dans l'excellence intellectuelle, plus dans l'engagement à la française. Dans ce monde un peu bizarre où on parle de post-modernité, où on parle de transition, où on parle de fin du monde et où on parle de limites planétaires, on doit réinventer un tas de trucs. Et bien, je crois au fêlé, en fait.
Bah,
voilà.
C'est passionnant. Bah, en tout cas, tu lances des sacrés sujets. Alors, ça me fait penser, c'est marrant, moi, je réfléchis toujours avec des films ou des documentaires, ça me fait penser au docu actuel d'Obama, je sais pas si tu l'as regardé, Working, que je te recommande, où il parle justement de toute la cartographie du monde du travail et où il va à la rencontre, bah, voilà, un sacré leader, tu parlais de leader, il va à la rencontre de tout type de catégories de métiers, hein, socio-professionnels aux États-Unis et justement, il interroge tout le rapport au travail. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc je voulais parler de ça avec toi sur la jeune génération, parce que là on sort d'une séquence en France où on a parlé un peu plus des gens en fin de parcours, mais parlons un peu de la nouvelle génération qui est quand même l'avenir. Donc le rapport au travail, comment tu vois ça toi? C'est en train de changer énormément, aussi le télétravail, les jeunes vont un peu aller un peu plus d'indépendance, t'as parlé aussi du côté patriote, bon, on sait qu'on est une génération parfois un peu plus rebelle. Comment tu vois tout ça, toi, cette nouvelle génération et bah, l'avenir quoi, de tout ce qui se profile? Alors, dans déjà, un monde où tu as quand même dit que les 30 années à venir, elles ne vont pas être si simples.
Alors, alors, c'est pas Emmanuel Duez qui dit que, hein, mais oui, globalement, bon, voilà, il y a une convergence
les signaux vont plutôt comme ça.
Il y a une convergence de tous les gens qui pensent et qui projettent un petit peu l'avenir pour être d'accord sur ce point. Alors, sur le sujet de la jeune génération, déjà, j'invite les auditeurs à découvrir l'association Youth Forever. Fondée avec une douzaine d'entreprises en pleine pandémie et où l'idée qui nous animait, c'était de dire que cette jeune génération fracassée par la pandémie, hein, parce que c'est quand même un peu le parent pauvre des politiques actuelles. Tu parlais de la retraite. En effet, la retraite, elle est passée à côté des deux débats majeurs pour moi. Le premier, c'était un regard sur les conditions de travail pour permettre au travail d'être émancipation et d'être épanouissement, plutôt que de se dire qu'on passe 40 ans de sa vie à passer à côté de sa vie. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est que finalement, cette réforme des retraites, elle n'a de sens que pour les générations de demain. Et plutôt qu'être arc-bouté sur les générations d'aujourd'hui, des jeunes aux moins jeunes, hein, j'aurais tellement aimé qu'un leader politique digne de ce nom repositionne nos enfants dans l'équation.
C'est ce que j'ai trouvé très dommage dans tout ce débat, qui finalement, c'est le rapport au travail qui se joue et aux nouvelles générations. Et je trouve que c'était complètement absent. Et c'est dommage. Je trouve que les médias, à des moments, alors c'est peut-être facile de dire comme ça, mais loupent le coche parfois de sujets très profonds qui ne sont pas débattus.
Alors du coup, on va en parler ici.
Oui,
donc,
allons-y, vas-y. À notre petite échelle, hein, ce n'est pas TF1 ou Netflix, mais allons-y.
L'association Youth Forever, donc Jeunesse éternelle en français dans le texte, que j'ai lancé avec d'autres, elle part du constat suivant. En fait, aujourd'hui, cette génération abîmée par l'époque, qui est âgée de moins de 25 ans, il faut 1. La réparer, 2. La préparer pour lui permettre 3. Dans 5 à 10 ans, en fait, d'être en capacité de transformer l'entreprise de l'intérieur. Alors, pour répondre très concrètement à ta question, qu'est-ce qu'on voit de cette génération et du rapport au travail? Reprenons mon histoire des 10%. Une génération n'est jamais un tout homogène. Donc, je ne peux pas te dire, la génération Z, elle adore le travail ou elle déteste le travail, ça ne veut rien dire. Ce que je peux te dire de ce qu'on observe, des études et des analyses qui sont réalisées dans le cadre de l'association, c'est qu'en fait, il y a une mosaïque de rapport au travail, à l'engagement et à l'effort de manière générale, voire même à l'existence, qui est extrêmement vaste au sein de cette génération.
Plus qu'avant, tu penses?
C'est ultra fracturé. D'accord. C'est ultra fracturé. Le travail n'est plus du tout une donnée de fait, où tu dis, ok, j'arrive, je vais travailler, et puis un jour, je serai à la retraite, et puis grâce à mon travail, je vais pouvoir faire autre chose. C'est pas du tout comme ça que se pose la question. Aujourd'hui, au sein de cette génération, tu as des gens qui attendent le revenu universel, tu as des gens qui sont des besogneux de malades, qui donnent tout au travail, tu as des gens qui cherchent un sens de manière presque spirituelle. Et puis, tu as ces 10% que j'appellerais la génération climat, qui est la population sur laquelle je vais m'arrêter deux minutes, qui sont ceux qui, plus que chercher un sens, voient leur rapport au travail dans le monde économique comme étant un enjeu d'utilité. C'est-à-dire je dois travailler dans une organisation pour pouvoir demain accompagner la transformation de secteurs d'activité entiers, parce que j'ai conscience que le monde économique est la bascule du système. Pour ces gens-là, l'entreprise, en fait, elle représente un espoir, mais surtout un territoire d'impact. Et ça, en fait, ça esquisse une responsabilité très importante pour le monde économique de prendre la mesure de ce nouveau pacte générationnel qu'on serait en capacité de nouer entre l'entreprise d'une part et la jeunesse d'autre part. À court terme, moi, entreprise, je vais te réparer. Parce qu'on a en France des jeunes qui sont fracassés, ils sont éco-anxieux, ils ont décroché pour le Covid à hauteur de 38%. Ils sont en difficulté économique beaucoup plus importante que les générations précédentes. Ils sont en fragilité psychologique. Hein. Les augmentations du taux de suicide des moins de 25 ans, c'est absolument démentiel. C'est plus de 50% sur une décennie, plus de 87% chez les jeunes femmes.
Et la grande cause, c'est Covid pour toi, c'est pandémie.
Bien sûr que non, c'est les 10 dernières années.
C'est les 10 dernières.
C'est l'érosion en fait de la société qui est la nôtre. C'est la difficulté à se projeter. C'est évidemment la transition environnementale qui bouche l'avenir.
Aussi, qu'il y a eu une dizaine d'années, il y en a eu des années difficiles. Il y a eu beaucoup de choses.
C'est aussi la digitalisation du monde. C'est les réseaux sociaux.
Aussi
c'est,
et surtout. Voilà, tout ça. Quand tu dis aussi, c'est surtout parce que entre nous, après chacun il va y aller de sa pensée, mais ce rapport ultra écran en permanence qui parfois nous remet pas dans des vraies choses ou la lecture et
c'est
ça.
La perte de vue de l'essentiel, c'est la perte de foi en l'avenir.
Que tout va plus vite aussi, il y a tout qui explique, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ce que
c'est,
tu dis.
Voilà, c'est plein de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les spécialistes s'accordent à dire que oui, il y a urgence sur la jeune génération aujourd'hui, donc l'entreprise, elle doit l'accompagner, le comprendre, prendre soin. Mais à plus long terme, le pacte s'inverse, puisque c'est l'entreprise qui aura besoin d'une jeune population préparée et armée au sujet de transformation pour opérer les bascules au cœur des business models. Toutes les entreprises vont devoir réinventer leur business model. À partir du moment où on dit que les limites planétaires, c'est un état de fait, elles sont connues et elles impactent 99% des secteurs d'activité. Ça veut dire qu'il y a des transformations extrêmement profondes de toute la chaîne de valeur des boîtes. Et ce n'est pas le BCG ou McKinsey qui va accompagner les transformations de boîtes titanesques. Donc en fait, on a besoin de créer la relève aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ces 10%, c'est que c'est ça la condition sine qua non de leur engagement. Je m'engage à partir du moment où vous me faites suffisamment confiance pour me préparer demain à être un agent de changement à l'intérieur des organisations. Et on ne parle pas d'entrepreneuriat, on ne parle pas d'innovation rigolote sur les bords. En fait, on parle de sujets de transformation qui sont absolument stratégiques au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça que je vois, moi, pour résumer ta question.
Est-ce que les écoles ont progressé sur ces sujets de vocation, de sens, ou est-ce que ça reste finalement un peu utilitaire, je ne sais pas si tu as creusé ce
j'en
sujet
sais
qui
rien,
me paraît,
mais
ça, parce que ça me paraît un sujet assez important quand même.
Je ne sais pas, j'entends de. En fait, il faut être un expert pour répondre à cette question parce que l'école, tu vois, c'est un monde extrêmement vaste.
C'est des universités, des grandes écoles surtout, mais j'avais ça en tête, mais parce que je sais
les
que
grandes écoles cheminent. Mmh. Je pense que le monde universitaire est un petit peu plus loin et le monde de l'éducation nationale avant le bac est encore un petit peu plus loin. Mais quand même, il y a des éléments qui sont en train de bouger. C'est de plus en plus, en fait, on se pose la question de où est l'école de la transition ? Elle est où, l'école de la transition ? Où est-ce qu'on apprend, en fait, à être un agent de changement de notre société ? Dans des secteurs d'activité, par exemple. Si je veux m'engager dans l'agriculture et que je veux être un agriculteur ou un ingénieur agronome différent, où est-ce que j'apprends, en fait, les métiers de la transition ? Ça, c'est des questions qui, honnêtement, il y a 2-3 ans, en pleine pandémie, où on était arc-bouté sur autre chose, n'existait pas. Donc il y a quand même des trucs qui bougent et c'est très positif. Et je pense que la jeune génération, en tout cas les 10% de cette jeune génération, qui ne sont pas dans le quiet bidule ou qui ont besoin de manger à la fin du mois et qui donc travaillent d'un point de vue strictement alimentaire, parce qu'il y a toutes ces réalités dans la jeunesse, hein, ça n'est, de nouveau, je le répète, pas un tout homogène. Mais voilà, pour ceux qui font le pont entre eux, travail, effort, utilité, transformation et manière d'agir dans notre société, il y a un pacte extraordinaire à renouer, je crois, avec le monde économique.
Je crois qu'il y a le sujet du mentorat qui tient très à cœur aussi. ça, j'avais lu un peu certains de tes posts. Ça, tu penses que ça a vocation à se développer de plus en plus, cet aspect transmission de connaissances, de compétences par d'autres biais, en fait, que les biais classiques?
En fait, plus que le mentorat, c'est un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, qui est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup écrit, notamment un bouquin qui s'appelle « Le goût des autres ». C'est le sujet de la fraternité.
Film, comme le film de Jaoui et Bakri.
Exactement. Exactement.
Très bon film.
C'est cette histoire de fraternité, c'est-à-dire que, je te le disais en introduction, les bosons, ils sont rien tout seuls. Il n'y a pas un boson isolé, ça ne veut rien dire. Et je pense que tout ce dont on parle depuis le début, et notamment la détresse d'une jeune génération un peu esselée ou perdue dans son époque, ça peut être calmé, en tout cas estompé, par une capacité à créer du lien. Et là, je n'ai pas du tout envie d'avoir un discours cuculapraline hein, sur le collectif, c'est mieux que l'individu, blablabla, non. En fait, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la réserve citoyenne de la Marine nationale il y a 8 ans. Demain, j'embarque sur un porte-hélicoptère.
T'es la deuxième invitée qui fait ça. On a une invitée dans le monde de la défense aussi. C'est fou. Et comment t'es tombée là-dedans? J'ai lu ça, mais je trouve ça assez incroyable.
Je suis tombée là-dedans parce que j'étais recrutée par un amiral.
D'accord.
Et j'ai découvert du coup un monde où il y a un esprit d'équipage, où on compte les uns sur les autres, où que vous soyez matelot tout en bas de la chaîne hiérarchique ou pilote de chasse, en fait chaque marin compte. Et si c'était pas vrai, le Charles de Gaulle ne pourrait pas tourner et les avions ne pourraient pas pomper.
À t'écouter, il faudrait rétablir un peu une sorte de service marin ou. Enfin, c'est des valeurs qui sont perdues un peu. C'est ce qui est dommage quand je t'entends, parce que c'est quelque chose de
fort. Ça fait désuet, la fraternité, mais je te rappelle qu'elle est affichée sur le fronton de la République.
Oui, mais malheureusement, les deux derniers mois n'ont pas montré ce que tu dis.
C'est ça qui est triste, les 20 dernières années.
Les 20 dernières années, oui, je suis gentil.
Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est une valeur qui est extraordinairement moderne, qui est hyper porteuse. Et il y a Michel Serres, hein, que j'adore aussi, qui a beaucoup écrit sur la fraternité, et en expliquant que... j'ai mal le dire parce que je le fais de tête, mais dans un livre il dit la fraternité c'est dans la marine, parce qu'il était marin lui aussi, laisser les armes de côté pour préférer prendre soin de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu de ça dont on a besoin en fait, d'organisation avec cette entraide. Dans la marine, on dit que la force d'une chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié dans l'entreprise. Dans la marine, pour former un pacha de Charles de Gaulle, donc le porte-avions, sur 27 ans de carrière, il faut 12 ans de formation. Et ça, on l'a oublié dans l'entreprise. On l'a oublié en politique aussi, hein, que c'est un métier, en fait, d'être un grand monsieur ou une grande dame, d'apprendre la complexité des humains. Et donc,
c'est le temps, c'est la durée, c'est le fait d'accepter aussi le
c'est l'abnégation, c'est l'effort, c'est la discipline, c'est mais c'est aussi en fait l'altérité, c'est dans un monde très hiérarchique.
L'écoute, bien sûr.
Finalement, une hiérarchie extrêmement horizontale, parce que chez les commandos, celui qui décide si il tire et il tue, c'est celui qui est derrière son fusil, qui a 18 ans ou pas en fait. Hein, c'est donc il y a une notion de la responsabilité qui est hyper forte. Les gens, ils chevauchent leur destin et ils le font ensemble. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
Bah dis donc, c'est une sacrée école d'humilité, de fraternité que tu as eu là. Voilà, mais ça me fait penser à un truc que j'ai lu là récemment, que c'est le lâcher prise. Trois clés. Je sais plus si c'est Edgar Morin ou un autre philosophe disait que le lâcher prise, la confiance et un peu comme toi d'abandonner un peu d'ego au détriment pour les autres. Ce que disait, je crois, d'ailleurs Jean-Jacques Goldman pour les enfoirés. Il disait ça à tous les talents un peu avec des grosses personnalités. Mets ton ego de côté. J'ai toujours bien aimé cette phrase, mais qui va un peu dans le sens de ce que tu dis. Bon, bah, c'est voilà, un podcast qui est un peu philosophique, hein, qui n'est pas juste entrepreneurial. L'engagement, tu as dit un truc important tout à l'heure. Bah, on va reprendre la métaphore du bateau. Hein. Il ne faut pas que ça soit sans filtre. Je ne sais pas si tu as vu ce film, Sans filtre. Là, c'est un bateau.
Je suis nulle en cinéma, je suis désolée. Je sais que tu aimes beaucoup ça, mais.
J'adore, mais.
J'ai trois enfants, j'ai pas le temps d'y aller.
Il y a eu un film un peu marquant qui a eu la Palme d'Or l'année dernière où c'était l'histoire justement d'un bateau et d'un équipage, mais tout partait un petit peu.
En sucette.
En sucette, exactement, parce que c'était un équipage ultra riche et dézingué. Enfin, c'était une espèce de métaphore satire de notre monde, mais en un peu plus poussé, donc sans filtre. Et. Mais donc, on parlait du bateau de l'engagement. Donc, tu l'as dit, tu as commencé là-dessus, c'était un de tes quatre piliers. Ça, c'est important, ça, pour les auditeurs qui vont nous écouter, qu'ils soient des DG, des start-upers, des entre-scale-up, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est clé pour créer ce ciment, cet engagement dont tu parles, qui fait que tout le monde bah, se sent à sa place, a envie d'aller voguer à bon port, comme on dit?
Bon, je ne sais pas trop s'il y a des recettes de base. J'en ai donné quelques-unes quand même, déjà. J'ai beaucoup parlé du leadership parce que je pense que c'est plus facile de s'engager quand il y a à la tête des gens inspirants, modernes, dans leur, dans leur courage, dans leur parler vrai, dans leur authenticité, dans la gestion de leurs émotions, que quand il n'y a personne ou quand il y a des espèces de mecs qui sont des épouvantails épouvantables. Bon. Donc le leadership... je pense que le sujet de la transparence des règles du jeu, il est fondamental. Là aussi, hein, c'est un côté très militaire, mais en fait, on oublie quand on parle du travail et de l'engagement que c'est un contrat. C'est-à-dire que moi, je donne du temps, je donne mon talent, je vais donner ce que je suis. J'ai donné mes idées, ma passion, ma fougue, voilà. En échange de quelque chose, et j'ai besoin de savoir quelles sont les règles du jeu. Et qu'elle soit explicitée. Et quand il y a de la cooptation, quand il y a de l'humain et que ce n'est pas des règles qu'on peut écrire, bah de l'assumer. Donc ça, c'est un autre élément qui est pour moi très important. Le troisième élément aussi, c'est de ne pas, pas faire la manche, en fait. Moi, je suis la patronne de... Enfin, la patronne. Je suis l'entrepreneur de deux structures dans lesquelles il y a un certain nombre de salariés des deux côtés. Et notre approche à chaque fois en tant qu'employeur, c'est évidemment d'être ultra à l'écoute, mais aussi d'être un peu en leadership de ce qu'on a à proposer. C'est-à-dire que moi, je ne m'excuse pas de recruter des gens en disant « Dis-moi ce que tu veux, je vais faire absolument tout ce que tu veux. » Non, en fait, je suis très fière de ce qu'on fait chez The Boson Project et de l'utilité qu'on a et du niveau d'excellence qu'on se met, des travaux de recherche qu'on mène. Je suis très fière de Bugatti, qui est l'autre structure que j'ai créée il y a 4 ans, où c'est du hardware, c'est difficile, il y a des ingénieurs, il y a des développeurs. Je suis hyper fière. Et donc, à un moment donné, je ne fais pas la manche en suppliant les gens de venir chez moi. Je leur dis, tu sais, ici, on fait des trucs dingues et on le fait dans le respect des hommes et des femmes et on fait des projets qui sont utiles à la transformation du monde économique et politique dans le premier cas, à l'éveil au monde des tout-petits dans le deuxième cas. Et donc, si ça ne te plaît pas, viens pas. Voilà. Et je ne sais pas si je suis claire dans mon propos, mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, il y a une telle tension sur le marché des talents. C'est tellement difficile de recruter que j'observe des entreprises, et notamment des petites structures, dire on va faire tout ce que vous voulez, mais non. En fait, soyez fiers déjà de ce que vous avez à proposer, restez droit dans vos bottes, n'abîmez pas le contrat collectif sur l'autel des contrats individuels. Ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. C'est qu'en fait, il faut travailler, c'est ce qu'on essaye de former chez les Bosons, hein. C'est ça qu'on fait quand on accompagne les entreprises, au pacte social collectif. C'est quoi le pacte social de telle ou telle entreprise, d'une boîte de 100 000 personnes comme d'une boîte de 10 personnes? En quoi est-ce que vous croyez profondément? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au collectif? C'est quoi la contrepartie de l'engagement qu'on déploie chez vous? Et ça, en fait, c'est important de le formaliser et de ne pas le faire exploser parce que vous avez repéré un talent que vous voulez absolument et à lui, vous dites écoute, on va exploser la grille salariale, on va fonctionner de manière totalement différente de ce qu'on avait dit qu'on allait faire dans le cadre de l'entreprise. Ça ne marche pas, en fait. Je crois qu'il faut aujourd'hui opérer un rééquilibrage entre des talents qui doivent choisir une destinée dans l'entreprise et une utilité parce que ça leur parle profondément et parce qu'ils ont le choix, et des entreprises qui doivent structurer leur modèle social pour être en capacité de le partager, de l'assumer, de dire, chez moi, c'est comme ça qu'on s'engage et je vais prendre soin de votre talent de cette manière-là.
L'essor du travail indépendant, comment tu le vois? Tu penses que c'est quelque chose qui va être très profond ou est-ce que ça change?
C'est déjà très, très profond, hein, puisque aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise et que vous cherchez une expertise de pointe, le réflexe, il est désormais pas simplement de recruter, mais aussi d'aller regarder sur des plateformes, des gens un peu différents, parce qu'on sait que les meilleurs, ils sont désormais un peu partout. Donc oui, évidemment que c'est une tendance qui est forte, qui est lourde, qui a changé le mode de réaction des entreprises, le mode de recrutement, le mode de collaboration aussi. Pour autant, je pense que le grand remplacement des freelances, enfin des salariés par les freelances, il est clairement pas pour demain et à mon avis il n'aura jamais lieu parce que il y a beaucoup de salariés en fait de gens qui ont envie d'être dans un collectif, qui sont hyper contents de bosser. Ça c'est aussi un truc qu'on a tellement raté ces six derniers mois, à dire que
de rejoindre une équipe,
on est tous simplement esclaves d'un connard de patron. Bah, en fait, il y a plein de gens qui sont tellement contents de bosser dans un collectif parce qu'il y a plein de boîtes qui sont hyper belles, il y a plein d'équipes qui sont hyper belles, il y a plein de gens qui font des projets qui sont hyper chouettes. Et quand ils font même pas des projets chouettes, ils sont juste hyper contents d'être dans une équipe avec des gens sympas à faire quelque chose où ils observent l'utilité à minima pour son collègue de ce qu'il fabrique toute la journée. Donc je crois pas qu'on soit tous des freelances nés, en fait.
Télétravail, ton regard en quelques mots là-dessus ?
Là, pour le coup, c'est un regard de patronne. Télétravail, le travail hybride est installé durablement et à mon sens, il n'y aura pas de retour en arrière. Le management doit absolument accompagner cette hybridation du travail et on n'est même pas au début de l'histoire. L'entreprise n'a pas non plus pris la pleine mesure de ce que ça voulait dire d'un point de vue immobilier, d'un point de vue accompagnement managérial, parce que les managers ont un rôle extrêmement important et ne sont pas outillés aujourd'hui.
Encore plus lourd qu'avant.
Hyper lourd, ce sont les gardiens de l'engagement en proximité, c'est très lourd, c'est complexe. Il faut qu'ils mettent des nouvelles limites aussi, parce que les gens, en fait, c'est une forme de paradoxe. Les gens se sont éloignés physiquement de l'entreprise avec le travail hybride. Mais ils ont laissé leur vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le collaborateur Julien et puis Julien dans la vie. Maintenant, c'est Julien tout le temps. Et donc, le manager, il doit aussi apprendre à mettre des nouvelles limites. Et tout ça, les managers ne sont absolument pas outillés. Donc, le télétravail, c'est un acquis social, je crois. C'est une des batailles qui a été gagnée parce que finalement, ça a décorrélé la présence et la performance. Ça, c'est très important. On n'est qu'au début de l'histoire en termes d'adaptation de l'entreprise, notamment d'un point de vue immobilier, sujet sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec Nexity. Et en revanche, le télétravail à haute dose, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que chaque entreprise et chaque salarié va réussir à trouver le truc qui sonne juste pour lui. Mais le full remote en France ou en un rapport émotionnel au travail, à la différence du monde anglo-saxon qui déploie un rapport transactionnel au travail, j'y crois peu. Parce qu'en fait, les hommes et les femmes ont besoin de pulser, de ressentir des trucs. On est des latins au travail, très profondément. Et là encore, c'est un débat qu'on n'a pas eu et qu'on a raté. Il y en a un paquet mais ces six derniers mois, mais celui-ci particulièrement. Et du coup, si vous êtes totalement à distance, 100% du temps à distance, vous vous détachez, puis au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt. C'est quoi un job, en fait, qui n'est pas une ressource émotionnelle, où à aucun moment vous vibrez ? Bah, ça ne sert à rien. Donc on s'en va, et c'est là qu'on a tous les discours de finalement, soyons spectateurs de son travail, et l'indifférence, c'est bien. Bah non, c'est pas bien, en fait, c'est un échec. Parce que la vie, c'est fait pour vibrer au travail et partout ailleurs, en fait.
Donc, on arrive dans la dernière partie du podcast, Emmanuel. Une petite question de curiosité, parce que donc, ça fait plus de combien, 10, 15 ans que tu es entrepreneur déjà ?
Oui.
10 ans. Ce que tu as appris, toi, sur toi et sur les autres dans ce voyage, je dirais, en rapide, bon, c'est dur en résumé, mais ce que tu as appris dans ton cheminement, finalement, dans cette progression ?
Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que plein de trucs, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai appris ça, parce qu'évidemment,
je l'aime bien,
j'ai abîmé ma monture et donc j'ai compris.
Tu fais gaffe maintenant.
Et maintenant, je fais attention.
Tu déconnectes un peu plus, c'est ça que ça veut dire ?
Alors moi, je déconnecte jamais. Et j'ai un équilibre que certains psys diraient totalement déséquilibré, mais en fait, que j'assume. Et en revanche, je suis entourée de gens qui prennent soin de moi. Qui savent dire non pour moi quand j'ai envie de dire oui à tout. Il y a des gens qui m'ont...
T'as des bons garde-fous.
Ouais, j'ai un rythme de vie qui est le mien. Tu sais que je ne vis pas à Paris. Donc, je vis entre Paris et quelque part en Bretagne. Du coup, j'ai un espace-temps qui n'est pas l'espace-temps de la frénésie du business que j'affectionne, mais qui me calme. J'ai 3 enfants et ils me calment, en fait. Hein. Il y a un moment... Et je sais quelles sont mes priorités. Et je me suis entourée de gens qui savent mieux que moi quelles sont mes priorités et qui, du coup, les protègent. Ça, c'est extraordinairement précieux. Mais j'ai mis du temps à m'octroyer ce luxe-là. J'ai appris aussi que pour qui veut mener plusieurs projets en parallèle, et moi j'ai le grand défaut d'être boulimique, donc j'ai l'entreprise The Boson Project, j'ai l'association Youth Forever, donc je suis la présidente, je suis administratrice d'entreprise, et puis à 4 ans j'ai monté une entreprise qui s'appelle Bugali, avec un très gros entrepreneur de la tech qui s'appelle François Isquin, et qui développe une console de lecture pour les tout petits qui rend tactile le livre papier. Donc là c'est une révolution technologique, il y a derrière ça 4 ans de R&D.
C'est Bugali celui-là. Hein.
Bugali, ouais. Un an d'industrialisation, on sort en octobre. Et en fait, pouvoir mener à minima 2 gros projets entrepreneuriaux, que sont les bosons d'une part, à dimension politique, et Bugali d'autre part, à dimension industrielle et internationale, des projets très ambitieux, bah en fait, ça nécessite de faire confiance à des gens qui sont plus forts que nous, donc à s'entourer des meilleurs, à être un peu humble aussi. Dans l'association, typiquement, voilà, François est le DG de Bugali et en fait, heureusement qu'il est là. Il est ingénieur de formation, il parle un langage que je ne parle pas. Et donc, cette complémentarité à la tête d'une organisation qui est devenue importante. Hein, Bugali, on est en aggloméré 30-35, quoi. Donc, et ça ne fait que commencer. On n'est même pas sur le marché. Ça, c'est fondamental. Donc, voilà, qui veut aller loin ménage sa monture, s'entourer de gens plus forts que soi, faire confiance et accepter que les choses ne se fassent pas exactement comme je les aurais faites si j'avais été seule, mais je ne suis pas seule et grâce à eux, je peux faire des trucs que j'aurais pas pu faire toute seule.
T'es une calme, toi, ou une anxieuse ? Une calme ou une anxieuse ?
Je suis une excitée.
Une excitée.
Donc, d'accord. Ni calme ni anxieuse.
D'accord. T'es voilà. Une exaltée.
Je suis une exaltée. Je suis une.
Pour la passion.
J'aime vivre intensément.
Vivre intensément.
Voilà, j'aime vivre intensément et j'aime bien faire en sorte que chaque heure qui passe soit une heure à forte valeur ajoutée humaine et donc ne jamais la regretter. C'est aussi pour ça que j'ai cette boulimie de projet, c'est que une idée, bim bim, on connecte, machin, allez, on y va. Puis à un moment, faut mettre à la tête des gens qui sont très forts. Donc typiquement à la tête de Youth Forever, il y a Jasmine Manet, qui est une jeune femme absolument époustouflante, qui est aujourd'hui la directrice générale de l'association et qui a staffé son équipe et qui vient de lancer là une école qui s'appelle CENO, convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser, où on va former les jeunes qui lèvent le doigt dans l'entreprise et dans la société et qui disent « moi, je suis un agent de transformation, apprenez-moi les rudiments de la conviction, de l'éloquence, de la négociation avec des dirigeants, de l'écoute ». Des contraintes du monde économique et de l'opérationnalisation de projets complexes. Donc, voilà.
On comprend que tu voulais être avocate au début. Hein. T'as l'éloquence.
Il y a du verbe.
Ils vont voir les auditeurs, ça. Tu as écrit aussi un des bouquins.
Un petit peu, ouais.
Lequel tu as écrit, qu'on peut citer pour les auditeurs ?
Alors, j'ai écrit avec une philosophe, là encore extraordinaire, Justine Dupuis, Le goût des autres,
ah, voilà.
Qui est un petit traité sur la fraternité. On a écrit. On a écrit un bouquin avec les bosons donc pour un travail émancipateur dernièrement à l'occasion de nos 10 ans. On a écrit beaucoup d'études en fait, hein, parfois des gros dossiers sur les jeunes générations, sur la gouvernance, sur le courage. Voilà.
Une boîte, une ou deux boîtes très inspirantes pour toi et un projet dont tu aimerais parler en quelques mots avant qu'on arrive dans la toute dernière partie du podcast. Ça peut être une initiative ou quelque chose qui t'a toujours laissé très admirative. Ça peut être ce qu'a fait une entreprise, ce qu'a fait une marque, un projet sur lequel tu as bossé.
Des entreprises où je suis admirative. Là, je viens de rentrer au conseil de LNA Santé, donc, qui est un acteur qui opère des crèches, des EHPAD et des cliniques. C'est des jobs hyper difficiles. Hein. Et je suis très admirative. Je suis très admirative parce qu'en fait, ça a été fondé par le père. C'est la troisième groupe français.
T'as dit LNA Santé ?
LNA Santé.
LNA Santé.
Fondé par le père, c'est piloté par le fils. Il y a des valeurs humanistes partout. Et lors d'un dernier conseil, le père, donc le fondateur, devant les administrateurs, a eu cette phrase que je trouvais extraordinaire. Donc, on parlait d'un business qui, clairement, n'est pas un business très, très rentable. Loin s'en faut. Et il a eu cette phrase pour clore le débat sur la rentabilité en disant, en fait, on est utile, alors c'est OK. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup des business comme ça, des gens comme ça, des structures actionnariales comme ça, familiales en France, il y en a. En tout cas, dans les PME, dans les ETI familiales, il y en a plus que dans le monde de l'entreprise classique. Et ça, c'est pour moi une source d'inspiration extraordinaire, quoi. Les gens qui ont vraiment le souci de l'autre et de son prochain, que ça soit un enfant dans la crèche, des personnes âgées ou des gens qui sont dans des parcours de soins. Avec soucis tous les instants et que ça soit familial et que ça se transmette. Waouh, quoi! J'avais eu la chance de travailler pour eux. Et quand je suis passée au niveau du conseil d'administration, j'ai découvert que c'est ce que j'avais vu qui était déjà incroyable. C'est anti-bullshit du début à la fin.
Et puis toutes les personnes, surtout, parce que moi qui ai travaillé aussi un peu dans le domaine de la santé ou service à la personne, c'est des leçons de vie, je trouve.
Ah, c'est des leçons de vie, voilà.
Le temps que les gens donnent pour les autres au jour le jour, ça remet.
Et là, c'était une leçon de business. Parce que là, on était face aux dirigeants qui sont les propriétaires. Leçon de business, voilà. Mais j'aurais pu avoir la même chose chez Loïc Enaf, le groupe Enaf. Bref, voilà. L'autre organisation dont j'ai beaucoup parlé et qui m'inspire énormément, hein, c'est l'armée. La marine en particulier, que je connais mieux, parce que la marine, c'est une armée d'experts. Et donc il recrute des profils qui sont des gens incroyables, des atomiciens dans l'énergie nucléaire, et je trouve qu'il y a une qualité humaine, une qualité managériale fantastique. Et puis alors, une initiative que je trouve dingue, c'est Sea Shepherd. Je trouve ça dingue parce qu'en fait j'ai commencé le podcast en te disant que j'avais monté les bosons pour avoir à ma toute petite échelle, avec beaucoup d'humilité, mais un impact un tant soit peu politique sur le monde qui est le nôtre. Et en fait, Sea Shepherd, c'est une initiative associative militante complètement politique, et qui croise l'univers militaire, l'univers associatif, environnemental, etc., et le monde politique de transformation de la manière dont on voit la planète, dont on voit l'environnement. Ça, je trouve ça super génial, quoi.
Demain, tu l'avais vu, le documentaire?
Oui, je l'ai vu, ouais.
T'as aimé ce film?
J'ai aimé ce film, bien sûr. Ouais. Mais Sea Shepherd, tu vois, c'est pour moi, c'est encore plus puissant, parce que c'est une organisation parapolitique, libre. C'est dangereux, hein, parce que c'est des pirates de la mer. D'ailleurs, ils recrutent des militaires. Ils ont leur propre flotte. Il y a des dissensions, parce que c'est associatif, donc c'est le bordel. C'est dangereux. Mais en fait, il y a quelque chose qui me fascine, quoi. Il y a un peu de Batman, en fait, dans Sea Shepherd. Les gars, ils se sont dit, OK, il n'y a personne qui fait rien, il n'y a pas de gouvernement mondial. Et ben, on va créer une flotte avec nos propres bateaux. C'est nous, les pirates, et on va aller buter les méchants.
Ça fait penser un peu à
Fight Club. C'est dingue.
Je ne sais pas si tu aimais Fight Club comme film. Alors, ouais, toute dernière question, c'est tes goûts. Il y a deux dernières questions encore. C'est tes goûts en matière de création. En plus, là, je sors du domaine entrepreneurial, mais ça peut être musique, ciné, série, BD, livre. Enfin, voilà quelques œuvres qui t'ont marqué.
Alors, écoute, je vais sortir de ta question. Enfin, en tout cas, je vais aller dans un univers que tu n'as pas évoqué, qui est celui du cirque. Moi, je suis une folle de cirque.
Cirque du Soleil, tu l'as dit.
Non, alors un petit peu plus pointu, du cirque contemporain. Le cirque électrique, c'est extraordinaire. La compagnie Les Cinq Doigts de la Main, c'est extraordinaire. Le cirque Héloïse, c'est extraordinaire.
Tu es une fan de cirque?
Je suis une fan absolue. Je suis une fan absolue. C'est si j'avais du temps, j'irais au cirque tout le temps.
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans le cirque? C'est une sorte de recul sur
fait, c'est la croisée des mondes, quoi. C'est les circassiens sont des gens extrêmement brillants. Il y a toujours un propos politique, hein, dans le cirque contemporain. Le cirque contemporain, c'est la première université populaire, donc on fait passer des messages. Il y a de l'érotisme, il y a du théâtre, il y a le dépassement de soi, donc c'est des... moi, mon compagnon est commando marine. Et du coup, comme beaucoup de mecs dans les forces spéciales, il était persuadé que c'est les plus forts du monde, en fait. Parce que physiquement, ils sont aguerris. Et quand je l'ai emmené, pour la première fois de sa vie, voir des circassiens, il a pris une énorme baffe en disant, mais en fait, ces mecs-là, ils réussiraient tous le stage co. Mais bien sûr, parce que ce sont des athlètes, en fait. C'est extraordinaire. C'est des athlètes physiquement, c'est des artistes, ils ont un propos politique, c'est des comédiens, enfin bref, voilà. Moi, j'adore le cirque.
C'est drôle que t'as surpris par cette réponse, en tout cas. Et puis, la toute dernière question que je pose traditionnellement aux invités, c'est le conseil que tu donnerais un ou une jeune à, on va dire, qui sort des études aujourd'hui et qui veut créer, avoir un parcours entrepreneurial.
Je lui dirais de prendre un billet là en ce moment et d'aller au théâtre voir Tout va bien au théâtre de l'Essaillon.
Tout va bien.
Ouais.
Avec
Victor, c'est un seul en scène. D'y aller et d'avoir un regard. Quand on est jeune aujourd'hui, la jeunesse, je te partageais ce point tout à l'heure, cette notion d'éco-anxiété qui est pas. C'est pas un vernis, en fait, c'est pas superficiel. Hein, quand on regarde les chiffres sur la détresse psychologique, c'est une génération qui a du mal à discerner. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux aujourd'hui, quand on connaît les rapports du GIEC par cœur? Est-ce qu'on a le droit de faire des enfants? Et comment se sentir bien dans notre société? Et ce spectacle-là, alors, qui a été écrit et qui est interprété par mon petit frère, est absolument extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que c'est lui. J'y suis allée pour la première fois la semaine dernière et je suis sortie avec l'envie encore plus chevillée au corps d'avoir de l'impact sur le monde, en fait, et pas par le défaitisme et la contestation, l'indignation, mais par la joie, par la proposition et par le fait d'être un bâtisseur. Et c'est tout le propos de son spectacle qui est... mais c'est un mélange entre toi qui aimes bien les références plutôt littéraires, il y a du Nekfeu, il y a du Baudelaire. Et les charognes, il y a un mélange entre de l'ultra-modernité et puis du Arturo Brachetti par certains aspects. Donc c'est très déconcertant, mais on sort en se disant, ok, mais qu'est-ce qu'on a de la chance, en fait, d'être bien dans ces baskets aujourd'hui et qu'est-ce que je peux proposer pour que ça soit contagieux. Donc voilà, c'est ça que je dirais un jeune aujourd'hui.
Bien parlé. Alors, et tout va bien, donc le pitch en deux mots, parce qu'on a compris l'univers, mais donc c'est un stand-up, c'est une pièce, c'est un... qu'elle va être un peu sans tout dévoiler, mais la...
C'est
comme ça, on va parler.
En fait, c'est difficile à classer. C'est un seul en scène. Ça n'est pas un stand-up. C'est un peu une plongée dans un monde à la Tim Burton. Le décor est magnifique. Et c'est une réflexion philosophique ultra moderne et avec des moments où tu meurs de rire. Et des moments où tu as envie de pleurer. Donc tu passes par toutes les couleurs de l'émotion. Ouais, c'est une fable et tu suis un personnage et je peux pas dévoiler la fin, mais il y a des moments qui sont fous, quoi. Et tu sors en disant, putain, tout va bien. Mais putain, tout va bien.
D'accord. Super. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était un grand plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab.
Avec plaisir.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.